Chapitre 32. La cale pleine de sa cargaison malodorante, le bateau de pêche au kraken s'enfonçait très profondément dans l'eau. Les voiles et les cordages en grinçaient de fatigue quand il entra enfin dans le port de Graffan. Enthousiastes, les marins agitèrent les bras, crièrent et firent signe avec leurs casquettes longtemps avant qu'on puisse les voir de la côte. Toute heure rapiécées, les voiles de loin devaient ressembler à quelques plaides à carreaux. Un moment, Oliver s'était demandé si on n'allait pas lui faucher sa chemise pour les raccommoder. Penché au bastingage, il réussit à vomir pour la énième fois alors que son estomac était vide depuis longtemps. Sur une mer d'huile, le bateau ne tanguait pas, mais c'était la puanteur qui lui retournait les tripes. Près de l'érudit, Peretta se tenait droite comme un i, à croire que quelqu'un lui avait attaché un espar dans le dos. Blanche comme un linge, elle se mordillait les lèvres. « Comme il sied pour une mémoriste, » annonça-t-elle, « j'ai enregistré tous les détails de notre abominable voyage depuis Sérimundi. Parfois, mon don est une malédiction. » Ravis de revoir enfin la terre, les marins conversaient joyeusement.
« Moi, ce sera directement le bordel, »
dit un type au visage chevalin. Le genre de trogne qui devenait séduisante quand son propriétaire avait assez de pièces d'or dans sa bourse.
« Moi, je veux d'abord un bon repas et de l'alcool qui coule à flot, »
annonça un autre marin.
« Après, direction le bordel !»
Pas plus âgé qu'Oliver, un garçon squelettique aux mains calleuses lança.
« C'est un immoral, les gars! Sur les quais, beaucoup d'établissements proposent à manger, à boire et à besogner. Vous n'aurez pas besoin de choisir !»
Sir Cheval acquiesça gravement.
« Et quand on est trop saoul pour repartir, on peut même dormir sur place !»
Le capitaine Jared, frère d'Otto, le maître du port, émergea de sa cabine souriant aux anges.
« Dépensez sans compter, les gars » lança-t-il. « La pêche a été si bonne que vous aurez un bonus. 5 pièces d'argent et 2 autres si vous revenez à temps pour la traversée de retour. »
Après s'être essuyé la bouche, Oliver prit la parole.
« Peretta et moi, nous n'en serons pas, je le crains. »«
Je n'ai jamais cru autre chose, »
dit le capitaine. Peretta tint à justifier cet abandon de poste.
« Nous avons affaire dans l'Empire d'Aran. Merci pour le passage. »
Alors que le navire se dirigeait vers un emplacement libre le long d'un quai, les pêcheurs de Kraken enfilèrent des gants. Les mousses apportèrent des couteaux et des scies afin que leurs aînés puissent débiter en tranches les énormes tentacules.
« À Tanimura, » dit Jared, « les gourmets se régalent de chair de Kraken. » Une fois en Saumur, ce mets de roi se vend jusque dans les contrées du milieu. Aïe, Dindril, une boutique spécialisée nous l'achète par baril entier.
Tous les goûts sont dans la nature,
souffla Oliver verdâtre. Après la capture du premier monstre à tentacules, les marins avaient organisé un festin. Du kraken bouilli dans un grand chaudron sur le pont intermédiaire. Pour sa part, Oliver avait trouvé le délice immangeable. Une chair dure, caoutchouteuse, trop salée et très grasse. Après avoir vidé le kraken, les cuisiniers avaient jeté les déchets à la mer, provoquant un afflux massif de requins avides de festoyer aussi. L'estomac retourné, Oliver avait compris que ce qu'il avait pris pour un étrange vernis sur les divers ponts était en fait une couche de fluide immonde, solidifiée, datant des pêches antérieures. Grâce à Otto, les deux érudits n'avaient rien eu à débourser. En revanche, le navire, loin de traverser directement, avait écumé l'océan pendant 2 semaines en quête de proie. Le capitaine Jared approcha de ses 2 passagers. Très grand et bien musclé, il avait des jambes énormes et noueuses comme un tronc, juste ce qu'il fallait pour tenir debout durant les pires grains. Tandis que le bateau approchait du quai, l'équipage travaillant comme une machine bien huilée ou bien graissée, considérant les résidus qui souillaient le pont et la cale, le capitaine supervisait les diverses manœuvres.
« Et pour toi, mon garçon, ce sera quoi ? »
demanda-t-il à Oliver.
« Le bordel, la bouffe ou la beuverie ?»«
Un bain plutôt, » répondit Oliver.
En supposant que ça suffise à le débarrasser de l'odeur, quoi qu'il en soit, il devrait se trouver de nouveaux vêtements.
« Je suggérerais d'ailleurs la même chose à vos marins. Moi, » dit Peretta, « je rêve d'un lit douillet. »
Au souvenir du hamac qui oscillait toute la nuit, Oliver fut bien obligé d'approuver du chef.
« Oui, un bon lit, large et chaud. Si vous êtes ensemble tous les deux, plus besoin de bordel. »
Peretta prit un air pincé et Oliver s'empourpra. Nous sommes deux collègues chargés d'une mission importante.
Et alors ? Insista Jared. L'un n'empêche pas l'autre, non ?
Sans attendre de réponse, le capitaine s'éloigna en beuglant des ordres à ses hommes. Dès que le navire fut à quai, des dockers accoururent pour attraper les amarres lancées par les mousses et les accrocher à des bites. Des marchands se massèrent sur le quai avant même qu'on ait descendu la passerelle. Pressés de quitter le bâtiment, Peretta et Oliver furent les premiers à s'y engager. Une fois sur le bon vieux plancher des vaches, en quête de représentants de l'Empire d'Aran, Oliver s'avisa que sa compagne et lui se tenaient par la main.
« Il ne reste rien du palais des prophètes, » dit Verna aux sœurs réunies autour d'Ambre et d'elle. « Vraiment rien. Pas même un sort mineur pour guérir la toux, ni même la facture détaillée d'un fournisseur de fromage. »
Elle sortit la figurine de sa poche. « À part ce mignon petit crapaud retrouvé par hasard. » Sœur Rhoda sourit aux anges.
« Il appartenait à sœur Armina, je crois. Un souvenir de chez elle. »
Les autres sœurs ne sourirent pas.
« Cet objet est-il souillé ? Armina était une sœur de l'obscurité. »
Verna baissa les yeux sur l'amusante figurine aux yeux démesurés.
« Je ne sens pas de magie, » dit-elle. « Rien de particulier. » « Elle trouvait ce bibelot amusant, » dit Rhoda. « Rien de plus. »
Armina, jolie comme un cœur mais plus froide qu'un glaçon, trouvait quelque chose amusant. Sceptique, Verna remit le bibelot dans sa poche.
« On pourrait retourner les ruines pendant des années sans rien trouver. Même les catacombes ont disparu. » « La toile d'autodestruction devait s'étendre jusqu'aux fondations, voire au-dessus, » dit Ambre. « Et quand il l'a activée, le seigneur Hall était sans doute foudrage. »
Avec sa voix musicale, la jeune novice avait quelque chose d'une petite fille.
« Oui, la colère de Richard, ce n'est pas rien, » confirma Verna. « Et c'est grâce à elle qu'il a sauvé le monde. » « Dans ce cas, réjouissons-nous, »
proposa sœur Eldine. Plusieurs fois centenaire, elle paraissait à peine 40 ans, un effet du sort temporel qui protégeait le palais des prophètes où elle avait passé la plus grande partie de sa vie.
« Oui, nous devrions nous réjouir, »
répéta Verna, d'un ton qui signifiait exactement le contraire. Au fond de son cœur, tous ces changements dans le monde lui ruinaient le moral. L'ordre impérial vaincu, puis sous la canne et ses armées écrasées, la dame abbesse aurait effectivement dû se réjouir, mais elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle devait faire. Pour l'aider à s'orienter, elle avait espéré découvrir de précieux documents sous les ruines du palais, mais il n'y avait rien. À Tanimura, dans le complexe construit par le général Zimmer, ses sœurs de la lumière et elle n'étaient pas chez elle. Toutes étaient d'accord pour dire qu'elles devaient s'en aller afin de céder la place aux nouveaux soldats qui arrivaient chaque jour. Zimmer ne leur avait pas fait comprendre qu'elle gênait, mais c'était facile à deviner. Les autres sœurs étaient éparpillées dans l'Empire d'Aran, surtout à Aydindril, et quelques-unes s'étaient même aventurées jusqu'en Terre d'Ouest, le pays natal de Richard où il était jadis un guide forestier talentueux. Les 10 femmes présentes à Tanimura étaient le noyau dur de l'ordre, des sœurs fidèles à leur formation enclines à chercher les conseils de la dame abbesse. Alors qu'elle s'apprêtait à s'acquitter des corvées du matin, après la courte réunion, quelqu'un frappa à la porte de leur baraquement. Le jeune capitaine Norcross entra, tout sourire.
« Dame Abbesse, des voyageurs sont arrivés. Ils viennent de très loin au sud, dans l'Ancien Monde, avec des nouvelles très intéressantes. Vraiment, vous serez fascinés par ce qu'ils ont à dire. »«
Des gens originaires d'une des cités côtières ?»«
Non, de bien plus loin que ça. »
dit Norcross avec un petit sourire pour Ambre, sa jeune sœur.
« Ils apportent des messages du sorcier Nathan et de la magicienne Nietzsche. »
Les autres sœurs sur les talons, Verna fonça vers la porte.
« Le général Zimmer est informé ?»
Norcross hocha vigoureusement la tête.
« Je peux vous conduire dans son bureau ?»
Verna se tourna vers les sœurs.
« Attendez ici, » leur dit-elle. « Je veux leur parler d'abord. »
Quand il était question de Nietzsche ou de Nathan, on ne savait jamais sur quel pied danser. Dans le bureau de Zimmer, le bois de charpente embaumait encore, contrairement aux 2 jeunes visiteurs qui empestaient le poisson. Lorsque Verna entra, le général se leva de son bureau.
« Dame Abbesse, je suis ravi de vous voir. Ces 2 messagers en ont long à nous raconter. »
À voir leurs vêtements froissés, les jeunes gens avaient dû faire un très grand voyage. Apparemment, il n'était pas plus vieux que la brave petite Ambre.
« Nous avons fait un long chemin, » dit le garçon.
Les cheveux emmêlés, il aurait eu besoin d'un bon coup de rasoir pour éliminer le duvet qui ne parvenait pas à bien cacher ses joues.
« Nietzsche et Nathan nous ont chargés de faire notre rapport devant le seigneur Hall. Il est à Tanimura ?»«
Hélas, non, » répondit Zimmer. « Au minimum, il doit être à 2 semaines de cheval d'ici, au palais du peuple, en Dara. Mais il peut aussi être en visite dans les contrées du milieu, en terre d'ouest, voire à Anderit. Bref, le trouver risque de ne pas être facile. »
Les messagers se ratatinèrent sur leur siège, accablés par ce qui les attendait encore.
« Après un si long voyage, nous rêvons de rentrer chez nous, » dit la fille, tout aussi dépenaillée que son compagnon.
Zimmer épousta distraitement sa manche, puis se tourna vers la dame abbesse.
« Oliver et Peretta ont avec eux des documents précis sur les activités de Nietzsche et de Nathan depuis leur départ de Dara. Une vraie saga !»«
Voilà qui ne me surprend pas, » dit Verna. « Je crois que Nietzsche a décidé de libérer l'ancien monde à elle seule. » »«
Oui !»
s'écria Oliver.
« C'est son objectif, et elle a déjà bien avancé sur ce chemin. »
Quant à Nathan, même bien disposé, on ne sait jamais quelle catastrophe il peut provoquer. Se relayant sans cesse, Oliver et Peretta résumèrent les exploits des deux aventuriers dans la balafre. D'abord la victoire sur le buveur de vie, puis contre cette folle furieuse de Victoria.
« Nietzsche a sauvé surplomb du monde, » dit Peretta. Les gens, bien sûr, mais aussi des trésors de connaissances.
« En fait, elle a sauvé le monde entier, » corrigea Oliver. « Le fléau de la maîtresse de la vie aurait tout dévasté. »«
Des trésors de connaissances ?» répéta Verna, sa curiosité éveillée.
« Surplomb du monde ?»
En silence, Verna écouta l'étonnante histoire de la bibliothèque magique dissimulée dans un canyon depuis les grandes guerres des sorciers.
« Nietzsche nous a interdit de lancer des sorts et de toucher à la magie, »
expliqua Oliver.
« De fait, c'est très dangereux. Du coup, nos érudits se contentent de cataloguer les grimoires, un travail énorme. »«
Ils veillent sur le savoir, » dit Peretta, « mais ils n'osent pas l'utiliser. C'est bien trop risqué. »«
Pour sûr que ça l'est, » approuva Verna. « Je me réjouis que vous en ayez conscience. » Depuis des milliers d'années, les sœurs de la lumière forment les sorciers à manipuler les sorts les plus dévastateurs.
Nous aurions bien besoin de vous à surplomb du monde,
soupira Oliver.
Il nous faudrait des gens calés comme guides.
Le cœur battant la chamade, Verna regarda Zimmer.
Général, si cette bibliothèque est aussi complète qu'ils le disent, c'est effectivement un trésor, mais aussi une arme mortelle dans le cas où elle tomberait entre de mauvaises mains. « Ne conviendrait-il pas de la protéger et d'aider les érudits à mieux comprendre les textes ?»
Adossé à son siège, l'officier prit le temps de peser le pour et le contre.
« Vous avez raison, dame abbesse. Je suis là pour créer une garnison, mais Tanimura est en paix et chacun s'y montre loyal au seigneur Hall. Des milliers de soldats viendront ici puis se répartiront dans le sud. Ma mission consiste aussi à établir des têtes de pont partout dans les régions inexplorées de l'ancien monde. »
« Inexplorés ?»
répéta Peretta.
« Oliver et moi, nous les connaissons. »«
J'ai pris des notes, »
confirma le jeune homme,
« et elle a tout mémorisé. »«
Pour étudier ces antiques grimoires, » dit Verna, « nul n'est mieux qualifié que les sœurs de la lumière. Et pour les protéger, qui ferait mieux que vous, général ?»
Zimmer hocha lentement la tête.
« Une expédition avec quelques centaines de soldats, oui. » Comme nous laisserions la garnison entre de bonnes mains, je n'aurais rien à redouter. Des renforts arriveront bientôt du nord pour se répartir entre Larikan, Kerimus, Serimundi et d'autres villes qu'aucun Daran n'a jamais visitées.
Croisant les mains, Zimmer se pencha en avant.
Oui, nous pouvons monter une expédition, établir des avant-postes en chemin et reconduire ces jeunes gens chez eux. Ce serait tout à fait dans le cadre de ma mission.
Posant les mains sur ses genoux, Peretta tenta de lisser les plis de sa robe.
Avant, nous devons trouver le seigneur Hall. Nietzsche a insisté. Il faut qu'il ait connaissance de nos rapports.
Et si tu me laissais m'en charger, jeune dame,
proposa Zimmer,
mes meilleurs cavaliers fileront vers le palais du peuple afin de livrer vos documents au seigneur Hall et à la mère inquisitrice. Qu'en dites-vous?
Si ça vous convient, nous serions fiers de vous accompagner jusqu'à Surplomb du Monde, à condition que vous nous montriez le chemin. »
Les messages seront délivrés ? Demanda Oliver. C'est promis ? Parole d'honneur ?
Bien entendu. Un général ne s'engage pas à la légère.
Et on rentrerait chez nous ?
Soupira Peretta. Quant à nous, ajouta Verna avec son premier vrai sourire depuis longtemps,
nous veillerons sur vos archives.